J'accueille en studio un de nos collaborateurs à Canal M que vous connaissez bien, Benoît Racette, qui est organisateur communautaire chez Execo.
Oui, il faut choisir la proposition, hein? C'est ça, la préposition, pardon. Ben, bonjour, Maxime.
merci d'être en studio avec nous. Comme vous le savez, on a des chroniqueurs réguliers qui reviennent à l'émission. Execo en fait partie.
Merci de l'invitation, d'ailleurs.
De nos précieux collaborateurs, pourrais-je dire. Mais pour ceux qui découvriraient l'organisme aujourd'hui en nous écoutant, peux-tu nous parler brièvement de la mission d'Execo?
Bien, tout a commencé dans un sous-sol non adapté. Ça vous surprend, hein?
Ça semble ironique, mais peut-être c'est un peu ironique. Que c'est le point de départ.
En fait, Pierre-Yves Lévesque, qui a 35 ans, a fondé l'organisme Execo dans le sous-sol familial. Et éventuellement, évidemment, ça a grandi. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus au sein et avec Execo. Et donc, on défend Execo depuis 35 ans les droits des personnes qui ont des déficiences motrices, mais en toute solidarité avec les autres personnes qui ont des limitations fonctionnelles, parce qu'on promeut l'accessibilité universelle.
Justement, la question, en fait, d'inclusion sociale est vraiment au cœur du mandat d'Execo.
Complètement.
Et c'est donc quelque chose de plus large que seulement l'accessibilité physique, mais même l'accessibilité universelle est une des facettes que vous défendez.
Complètement, c'est un moyen d'arriver à l'inclusion sociale. Puis ça n'a pas toujours fait l'unanimité, hein, l'idée d'inclusion sociale. Je ne sais pas si tu entends ça depuis longtemps, en fait, toi. T'es jeune.
mais non, mais l'inclusion, qu'est-ce que ça inclut,
ça sort
en fait?
De la nature. Ça sort pas de la nature, en fait. L'inclusion, au fond, c'est une manière qu'on aurait de mettre tout le monde ensemble, de permettre à tous et toutes d'interagir dans la même société. Donc, de ne pas être dans un ghetto, de ne pas être exclu, puis de décider pour soi-même. Hein. L'autonomie, ça a toujours été le fondement, la raison d'être d'Execo, l'autonomie des personnes. Alors, il faut pouvoir être autonome, décider pour soi-même, mais aussi décider pour l'ensemble. C'est pas juste à décider quels sont tes traitements à l'hôpital quand une personne est en situation de handicap. Il faut que tu aies accès à la délibération publique. Fait que l'inclusion inclut tout ça.
Et dans quel type de dossier que vous pouvez mener pour justement arriver à une meilleure inclusion sociale?
Bien, ça, c'est le party. On n'a pas fini de travailler, je suis bien désolé, mesdames, messieurs. Mais il y a quelques facettes qu'on travaille particulièrement. D'abord, il faut préciser que le plus souvent, on travaille sur l'échelon montréalais. Mm-hmm. Mais évidemment, en solidarité, on a tendance à embrasser aussi des combats, j'oserais dire, québécois. Et on défend le transport, qui est une des facettes de l'inclusion, la santé, les services sociaux, le soutien à domicile, la démocratie, l'habitation. L'habitation, on en parle rarement, mais c'est bien le fun d'avoir un panier accessible là, dans ton centre communautaire, mais c'est une bonne idée que tu puisses de toi-même décider d'avoir un appartement, d'y vivre et de faire tout ce que les citoyens ont envie de faire, au fond. Mm-hmm. Alors, ça pourrait résumer les facettes de l'inclusion sociale pour lesquelles on travaille, qu'on souhaite améliorer.
Une des clés pour que les gens comprennent davantage tout ce qui est lié à l'inclusion sociale, c'est de connaître aussi ses droits.
Exact. Ça, c'est le fun.
Il y a un visage enthousiaste.
Oui, parce que ça tombe pas tout seul dans la nature, les droits. On oublie souvent que notre société démocratique est basée sur les droits universels. Et c'est assez récent dans l'histoire, by the way, mais c'est fondamental. Au point où même au Québec, on a adopté depuis 1975, puis on a introduit le handicap dès 1978, on a une charte des droits et libertés qui a une valeur quasi-constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle se place au-dessus des autres lois. Mm-hmm. Et ces droits-là, eh bien, ils nous sont tous et toutes garantis. Pas juste comme personne en situation de handicap, mais comme tout citoyen. Alors, quand on dit, ben, s'il vous plaît, ne me discriminez pas, c'est pas pour être cute ou demander une faveur sympathique de la part de la personne devant nous. C'est parce que notre société est basée sur la non-discrimination, ou à tout le moins, elle devrait l'être.
Oui, bien, et c'est... En tout cas, on tend vers ça, on espère.
On espère, on y travaille.
Et justement, pour pouvoir dire cesser de me discriminer, il faut savoir reconnaître les sources de discrimination. Il faut savoir reconnaître les situations aussi. Mm-hmm. Il y a une certaine éducation à faire à ce niveau-là.
Complètement.
Est-ce que, en fait, tu es en mesure de nous donner quelques exemples peut-être de situations qu'à prime abord, on pourrait croire que... Ben, en fait, on ne décèle pas automatiquement la discrimination.
En fait, c'est une super bonne question, mais on en a des exemples tous les jours. Il faut dire aussi que la majorité de l'équipe est composée de personnes qui ont des limitations fonctionnelles. C'est sûr qu'au quotidien, on en trouve. Récemment, la semaine passée, la Commission des droits de la personne a publié un sondage, les résultats d'un sondage à l'occasion de ses 40 ans. Mm-hmm. Et elle a démontré, au fond, que il y avait peut-être seulement le tiers là, qui portait plainte. La plupart du temps, on avait tendance à en parler autour de soi ou le garder pour soi quand on vivait une discrimination. Mais parmi les lieux où on retrouve le plus de discrimination, c'est souvent le travail, dans les lieux du travail, à l'école. Pour les personnes en situation de handicap, c'est pas facile, même si on a beaucoup évolué. Et dans l'espace public, surtout. Nous autres, on travaille pas mal dans l'espace public, là. Évidemment...
Ça veut dire quoi exactement, l'espace public?
Quand tu te promènes sur un trottoir, puis que le bateau pavé n'a pas été arrangé comme du monde, non seulement tu peux compromettre ta propre sécurité, mais ça peut t'empêcher de circuler librement, comme tous les autres citoyens. Mais moi, j'irais plus loin. À ex aequo, ce qu'on dit... Parce que dans la société, là, on veut bien gros qu'on s'arrange entre nous autres. Tu sais, il y a une grosse volonté qu'on aille vers ça. Même le sondage de la semaine passée de la Commission des droits de la personne l'a dit. Mais nous, on défend bec et ongles l'accessibilité universelle. Et ça, mine de rien, c'est une société qui est conçue différemment qui nous permet de vivre l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, je vais pouvoir vous le définir si vous voulez, mais c'est le moyen... Ouais, c'est ça. C'est le moyen qu'on a trouvé avec le temps qui nous empêche de discriminer des personnes. Et c'est que c'est pas seulement les personnes en situation de handicap qui auraient une déficience motrice, par exemple, qu'il faut protéger, à qui il faut garantir des droits. C'est peut-être la moitié du Québec qui est analphabète fonctionnel. C'est pas rien.
On a tendance à l'oublier, mais effectivement, ça peut devenir une situation de handicap.
Ça pourrait être une situation de handicap. Et surtout, ça nous oblige à penser pas juste à l'accessibilité architecturale, mais à l'accessibilité des communications. On oublie aussi que les gens vieillissent, et dans notre société, c'est même accéléré. Donc, des limitations fonctionnelles vont surgir chez une grande partie de la population. Donc, quand on veut déployer l'accessibilité universelle, c'est pour une grosse gang. Et d'ailleurs...
Et j'évoque même les parents avec des jeunes enfants, en fait.
Voilà. Puis ça, en plus, les politiciens, ben, sauf l'actuel gouvernement, mais les politiciens ont peur des familles. Mais là, ce qui est particulier, ben oui, parce que quand vous avez des enfants, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais quand vous avez des enfants, vous défendez autrement vos droits avec beaucoup d'émotion. Comme une personne en situation de handicap, d'ailleurs, qui est confrontée à un obstacle. Moi, je trouve que c'est des groupes sensibles. Et les personnes âgées, qui sont évidemment en très grand nombre, ce sont des alliés. Tous ces gens-là, tous ces groupes-là sont des alliés de l'accessibilité universelle. Alors, c'est quoi l'accessibilité universelle, Maxime?
Je sens que tu vas nous répondre, bon, Benoît.
On pourrait. J'ai présenté ça de manière simple, ne pas discriminer personne, reconnaître les droits de tous, mais il y a une belle définition qui a été concoctée par une rencontre de chercheurs, de personnes, d'intervenants du milieu et qui a été faite en fait par le groupe Défi Accessibilité de l'Université de Montréal. Nous, on a collaboré à cette définition-là et elle est très claire. Bon, en tout cas, nous, on s'entend là-dessus. L'accessibilité universelle, c'est le caractère d'un produit, procédé, service, information ou environnement. Vous comprenez bien là, qu'on ne parle plus juste de la marche. Mm-hmm. Tout est inclus. Qui, dans un but d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome. Hein? La façon autonome... C'est bien beau que le monde souhaite s'arranger. Puis, je vais t'aider, je vais la pousser, ton fauteuil motorisé de 500 livres.
Ça fait appel, je vais venir ouvrir la porte, je vais mettre une rampe avant.
C'est doux, on aime, mais en même temps, tout le monde a le droit de faire ses activités de manière autonome. Donc, l'accessibilité universelle resitue le fait que les activités doivent être faites de manière autonome. C'est comme ça qu'on garantit les droits les plus fondamentaux des personnes. Et surtout, pour obtenir des résultats équivalents. Évidemment, on s'en doute. Malheureusement, une personne qui a une paralysie cérébrale ne deviendra pas pompier. Je suis désolé de le dire. Mais bon, ceci dit...
Elle n'a peut-être pas cette ambition-là non plus.
Non, peut-être pas. Mais il faut s'assurer dans notre société qu'elle puisse faire le plus de choix possible comme tous les citoyens. Je dis possible. En général, on dit qu'il faut qu'elle soit égale en dignité et en droit puis qu'elle fasse les mêmes choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec une définition comme celle-là, l'accessibilité universelle, on comprend qu'il faut penser notre société pour que personne ne soit discriminé.
Justement, on parle de questions de choix. Comment travailler dans le milieu communautaire comme tu le fais? Tu constates que les choix augmentent avec les gens avec qui tu travailles.
Tu me demandes, au fond, si l'inclusion elle s'est améliorée? Est-ce que les gens font plus de choix?
Comment, toi, tu vois ce que tu fais, en fait, avec qui tu travailles, les projets que vous menez de front? Comment est-ce que tu vois qu'au final, mener ces projets-là, réussir à travailler avec des gens, changer des situations, ça veut dire, au final, donner plus d'options aux gens?
Bien, en fait, ce que tu me dis, c'est que, Benoît, tu parles beaucoup de théorie, mais qu'en est-il des résultats? Mais écoute, j'ai une vieille appellation. Moi, je suis organisateur communautaire avec SECO. Il y a des gens qui portent des projets, etc. Et l'organisation communautaire, c'est venu des mouvements d'émancipation des populations dites vulnérables. Bon, il faut le dire que les personnes en situation de handicap sont vulnérables, mais... vous avez vu avec la définition tantôt qu'il faut être plus large que ça. Il y a plus de monde qu'on pense qu'il y a besoin de notre soutien. Mais l'organisation communautaire, comme on le fait, c'est qu'on invite les gens à se mobiliser, à penser à des solutions collectives. Évidemment, on les éduque sur leurs droits. Évidemment, ça les aide au début à répondre à leurs besoins individuels, mais ils peuvent encourager les autres à faire de même et être fiers d'être ce qu'ils sont et ne pas avoir peur de revendiquer. On fait un travail d'organisation communautaire qui permet à ces gens-là de mieux connaître leurs droits et d'avoir envie de militer, au fond. En gros, c'est ça. On souhaite produire du militant en toute liberté.
Oui, et informé de ses droits, informé des dossiers. En terminant très brièvement, si on veut justement aller chercher votre expertise, comment on vous contacte?
Bien, en fait, il faut aller sur execo.net, E-X-A-E-Q-O.net. Sur Facebook, on recherche le même appellation, ça marche aussi. Sur Internet aussi. Et je veux aussi finir en disant, on fait de la mobilisation sociale, mais on fait aussi de la pression publique, du travail de négociation, de l'influence. Mais c'est sûr que les deux doivent coexister pour qu'on puisse arriver à l'accessibilité universelle.
Merci beaucoup, Benoît Racette d'Execo, d'avoir été avec nous aujourd'hui.